Alors, le message de ce matin, il y a eu du mal à... L'accouchement a été difficile. J'ai pas souffert physiquement, mais ça a été compliqué à venir. Et il y a encore des choses qui me parlent moi-même, qui me parlaient pendant le culte. Je me dis, mais en fait, c'était pour moi ce message. Donc, je vous le partage, mais il y a des trucs qui m'ont touché ce matin, où d'un seul coup, ça a fait clic dans ma tête. Et je me suis dit, en fait, mais c'est comme d'habitude, faut apprendre les choses et après les transmettre aux gens. Bon, là, je l'ai appris très tardivement. J'espère que ça va, je vais vous le retransmettre dans le bon ordre. C'est lié au décès de la petite Colline dans l'accident de Renescure. Donc quand c'est comme ça, on réfléchit beaucoup, hein. Et quand j'étais au, quand j'étais, enfin, alors pas l'enterrement, mais du coup au funérarium, c'est des circonstances où on entend toujours à peu près les mêmes phrases, en fait, hein. C'est pas juste. Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Qu'est-ce que nous on a fait? Et les gens qui en veulent à Dieu terriblement, quand c'est des gens pas chrétiens, c'est comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que c'est pas juste? Bon, ouais, j'imagine parce qu'elle était petite, elle avait toute une vie devant elle, parce qu'elle avait rien fait de mal, elle méritait pas ça. Et même en tant que chrétien, bah des fois on se pose un peu des questions quand ça nous arrive, on est un peu décontenancé, on dit bah Seigneur, tu fais quoi? Pourquoi? On a beaucoup de questions comme ça. Assez ironiquement, hein, ceux qui affirment haut et fort que Dieu n'existe pas, dans ces cas-là, ont tendance à accuser Dieu d'injustice. Et étrangement, les gens qui étaient complètement athées en veulent à Dieu dans ces situations-là. On a du mal à accuser le hasard, hein, et à se dire que tout ça, c'est du hasard. Il faut un interlocuteur quelque part. Mais même en tant que chrétien, on n'a pas cette démarche d'accuser Dieu, hein, de dire c'est de la faute à Dieu si ça arrive. Alors des fois, dans certaines circonstances, on en arrive là, et le Seigneur, il y a encore plus de travail avec nous. Mais voilà, on pose des questions au Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Enfin voilà, on a beaucoup, beaucoup de questions et on a du mal dans ces circonstances-là à y voir très clair en fait. On n'est pas en mesure de réfléchir très très bien. Dans tous les cas, c'est pas facile d'y répondre. C'est pas parce que je fais un message ce matin qu'on aura une réponse à donner aux gens, qu'on aura une réponse pour nous-mêmes. J'ai juste choisi un angle de vue qui est très précis. Voilà, je sais que la question de la souffrance, de la maladie, de la mort, c'est pas en une prédication qu'on va faire le tour. Et je pense pas que c'est en faisant une prédication qu'on va faire le tour, d'ailleurs. C'est des choses qu'il faut qu'on vive, qu'on réfléchisse pour nous-mêmes. Mais l'idée, c'était d'y réfléchir, alors, de manière un peu plus sereinement. Et si ça nous arrive un jour, si ça arrive à des proches, d'avoir des éléments de réponse. Voilà. Après, je vous dis, je me focalise vraiment sur un angle de vue. J'ai pas la prétention de faire le tour de la question. Ce serait fou. Donc j'ai choisi des passages de la Bible. Alors il y a des passages qui sont hyper classiques, hein, quand on parle de souffrance. Donc je les ferai pas. J'avais pas envie de faire les trucs, les grands classiques, Job, tout ça. Donc voilà, on pense à Job, hein, je me suis un peu trahi, mais c'est difficile de l'éviter quand on parle de la souffrance parce qu'il y a un message qui est très très clair. Si je résume, c'est il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on est dans un combat entre Dieu et le malin. Et c'est pas parce que Job y avait fait quelque chose de mal, au contraire, on dit qu'il n'y avait personne d'aussi juste que lui dans son époque, et pourtant il lui arrivait un tas de malheurs. Mais voilà, il y a un combat entre Dieu et le malin, on est du côté de Dieu, donc quelque part on prend des coups en même temps que lui. Et Dieu permet les choses, mais voilà, jusqu'à une certaine limite. Ça c'est la leçon de Job. Je vais résumer, je veux pas parler de Job aujourd'hui, donc je vais aller plus loin. Alors on pourrait dire aussi C'est pas juste, je suis chrétien, il m'arrive ça, et l'autre à côté, il est pas chrétien, il lui arrive pas tout ça finalement. Hein, quand on réfléchit, ça c'est une réflexion qu'il y a déjà dans la Bible, donc je vais pas vous la refaire. C'est le psaume 73. C'est Asaph qui dit, ben j'ai vu le méchant qui se portait bien, et puis je me zut, ça me va pas. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. On va juste lire la fin du psaume parce que c'est sa conclusion. Donc Asaph dans le psaume 73. Au tout début, donc je vous remets juste le tout début parce que c'est sa réflexion et ça correspond à ce que je vous ai dit. Toutefois, mon pied allait fléchir au verset 2, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils sont point frappés comme le reste des hommes. Voilà, il fait la description des méchants qui sont bien en fait. Et il dit, c'est pas juste, nous on essaie de faire plaisir à Dieu et puis finalement on est dans des situations qui sont pires que les méchants. Alors on pourrait regarder la situation dans le monde actuel, hein, voilà, on peut dire les gens qui sont très très riches, c'est souvent des gens qui ont magouillé. Alors, je fais des généralités, hein, faut faire attention, mais voilà, il y a beaucoup de magouilles, beaucoup de gens qui bâtissent leur fortune sur le malheur des autres. Enfin, il y a un ensemble de choses. On dit, bah, c'est pas juste eux, ils réussissent quelque part. Et la conclusion d'Azaph, elle est à partir du verset 16, où il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. Je pense que le mot important, j'ai pris garde au sort final des méchants. Je suis pas sûr quand il parle sort final des méchants, c'est juste la mort des méchants, la mort physique quelque part. Il y a quelque chose à aller voir beaucoup plus loin pour nous. Et c'est tout l'objet de ce dont on va parler ce matin. Mais je crois qu'il a mis le point là-dessus, voilà, le sort final des méchants. Et il faut qu'on arrive à regarder plus loin que ce qui se passe de manière physique sur la terre. Alors c'est pareil, je vais pas m'étendre forcément sur ce psaume-là, mais je vous laisse, voilà, ça fait des éléments que vous pouvez aller lire et puis réfléchir là-dessus. Et on va attaquer un autre passage après. Alors une dernière chose qui est relativement aussi classique sur ce sujet-là, c'est la mort de Lazare. Donc vous savez que il y a des gens qui viennent voir Jésus, il est en train de prêcher avec ses disciples, et puis des gens qui viennent le voir et qui font, ben, Lazare, il est malade. Et puis ben, Jésus, il attend. Et puis finalement, Lazare meurt. Et donc, quand Jésus finalement se décide à aller voir la famille, on lui dit, ben, il est mort. Et puis, Marie, comme Marthe, lui disent, ben, si t'avais été là, ça se serait pas passé. Si t'avais été là, il serait pas mort. Donc, il y a un fond de reproche, hein, quelque part à Jésus, même si elles ont l'espoir parce que, alors, je sais plus laquelle des deux dit, mais je sais que, hein, il ressuscitera. Je sais que tu peux faire quelque chose, en gros. Et donc il y a un espoir aussi, c'est pas juste bah, Jésus, franchement, t'aurais mieux fait. Pas que je tape dessus, sinon ça va pas aller. Je sais que t'aurais dû venir, franchement, enfin, tu nous aimes ou tu nous aimes pas là? Ils lui ont pas dit ça comme ça. Il y avait un début d'espoir déjà, et on voit qu'après Jésus ressuscite Lazare. Mais ce qui est important, donc ça c'est dans Jean 11. Donc Jean 11, verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, donc c'est au tout début de l'histoire, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et pourtant, Lazare, il est mort. Alors, il est ressuscité, on peut dire que c'était pas, voilà, sur le calcul total, il n'est pas mort. Mais il est mort. Mais je crois encore qu'une fois, il y avait quelque chose de plus, et il y a un élément de Jésus, voilà, il nous dit, elle est pour la gloire de Dieu. S'il dit, elle est point à la mort, c'est qu'il y a une raison derrière. Jésus, il s'est pas planté, en fait, il lui a pas dit, non, il va pas mourir, et puis, oh, raté. Voilà. Il y avait quelque chose de plus qu'il voulait nous dire, et il y avait elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et ça, il faut qu'on intègre aussi, on y revient, c'est le côté, à quoi ça sert, enfin, à quoi ça sert. Est difficile de dire à quoi ça sert la maladie ou la mort, hein, mais l'idée derrière, qu'est-ce que Dieu peut faire de tout ça? Et on voit dans Jean 11, donc toujours cette fameuse histoire, au verset 35-37, Jésus pleura. On aime bien ce verset, il va très vite à lire. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Et on voit le lien dans la tête des pharisiens, des gens qui étaient là. Alors, pas les pharisiens, c'est les juifs tout court. On voit dans leur tête que ben il aimait Jésus, et il n'est pas venu pour l'empêcher de mourir. Donc il y a un lien entre il lui arrive quelque chose, il est malade, il meurt, et ben est-ce que finalement Jésus l'aimait tant que ça? S'il l'aimait, il serait venu. C'est ça qu'ils disent les juifs, hein. S'il l'aimait tant que ça, il serait venu, il aurait sauvé, il aurait fait qu'il meure pas. Et donc on revient dans cette interrogation qu'on a dans nos têtes assez facilement, je pense, et peut-être encore plus quand on est chrétien. Il nous arrive quelque chose et de mettre en doute l'amour de Dieu, en fait, dans cette situation-là. Alors là, vous pouvez tourner avec moi, je vais arrêter de vous balader. En Luc 13. Donc Luc 13, les premiers versets. En ce même temps, Quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors il est intéressant ce passage parce qu'il décrit deux situations en fait. Alors la première, les Galiléens. Alors il n'y a rien de très sûr à ce sujet là. Il y en a qui font le lien entre ces Galiléens là et Acte 5 qui dit, Acte 5, 37, qui dit « Après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. » Ça, c'est les pharisiens qui discutent à propos des disciples et qui disent « Qu'est-ce qu'on fait d'eux ?» Il y en a qui disent « Bah, vous savez, il y a eu une secte là, mais ils sont tous morts. Il y a une secte là, ils sont tous morts. » Ça finissait assez mal à chaque fois. Il dit « Voilà, si c'est pas l'œuvre de Dieu, ça va mourir aussi. » Mais dans le lot, il parle de Judas le Galiléen. Et donc, certains pensent que les Galiléens dont parle Pilate ici, c'était des gens qui faisaient partie de son groupe. Et qu'est-ce qu'ils avaient de particulier ? Ils refusaient totalement l'autorité romaine à l'époque. Ils avaient des règles à eux. Alors, des règles, c'était une interprétation, on va dire, de l'Ancien Testament, où ils ne devaient pas reconnaître l'autorité autre que celle de Dieu, et ils ne devaient pas offrir de sacrifice pour autre chose que ce qui était prévu dans la loi. Ce qui les gênait, c'est que des gens allaient au temple offrir des sacrifices pour les Romains, pour le peuple et pour dire que pour le salut de l'empereur en fait et du peuple romain. On pourrait caricaturer, ramener ça dans notre époque et se dire il faut pas prier pour les autorités. C'est un peu ça leur délire en fait. Et pourtant nous on sait qu'il faut prier pour tout ce qui est autour de nous et pour le salut de ceux qui nous gouvernent. C'est écrit d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Voilà, les Judas, il avait fait sédition et il se battait contre Rome. Parce qu'ils reconnaissaient pas l'autorité, et ceux qui pouvaient avoir un début de soutien à l'autorité romaine, voilà, ils les combattaient. Et donc ces gens-là faisaient peut-être partie de ce groupe-là, et à un moment donné, Pilate a dit stop et les a fait massacrer. Et donc quand on dit, voilà, et Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice, c'est pareil, c'est un peu obscur pour nous, mais c'est pas impossible qu'il les ait attrapés au moment où ils faisaient leur cérémonie, leur sacrifice, et qu'il les ait tués, et qu'il, voilà, ça a été un massacre. Hein. Et donc dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe ? S'ils sont morts, c'est bien parce qu'ils étaient méchants quand même. Ils étaient plus méchants que les autres. Ils étaient pécheurs, ces gens-là. Donc, vous voyez qu'on retrouve le lien entre ce qui leur est arrivé et ce qu'ils ont fait quelque part. Donc la réponse de Jésus, elle est super claire. Il leur dit, vous pensez que c'est parce qu'ils sont pires que les autres qu'ils ont été tués comme ça ? Et il dit, non, je vous le dis. Il ne met pas de bémol là-dessus. Hein. Il dit, non, c'est pas à cause de ça. Alors c'est intéressant aussi ce petit passage, c'est une parenthèse, mais en y réfléchissant, je me dis, il n'y a pas de lien entre les souffrances des gens et le fait qu'ils soient... Qu'ils soient saints ou qu'ils aient la foi ou voilà avec le niveau de c'est pareil un peu bizarre comme formule mais d'appartenance à Jésus le niveau de chrétien c'est pas parce qu'on est un mauvais chrétien qu'on souffre et que au plus on va devenir un bon chrétien au moins on va souffrir ça c'est la doctrine de prospérité qui dit que si vous êtes un bon chrétien vous allez être riche avoir une belle maison une belle voiture plein tout va être bien et si vous arrive des malheurs faut vous poser la question quelque part hein, parce que dans la Bible on dit que vous allez être béni. Voilà, ça, c'est la doctrine de prospérité. Et là, Jésus, il dit non, il n'y a pas de lien entre ce qui leur est arrivé et le fait qu'ils étaient pécheurs ou plus pécheurs que les autres. Donc, c'est un argument supplémentaire contre la doctrine de prospérité. Donc, Jésus, il leur dit non, leur mort n'est pas une punition pour ce qu'ils ont fait. C'est un point important pour nous. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Il dit, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc il n'est pas en train de leur dire attention, repentez-vous, sinon vous allez vous aussi être punis, puisqu'il leur dit non avant. Donc c'est pas ça qu'il veut leur dire. Ça aurait pas de sens par rapport à ce qu'on disait avant. Ce qu'il leur dit, je pense, c'est ne vous fixez pas sur ce qui est matériel, sur cette mort-là physique, mais fixez-vous sur la vraie mort derrière, sur la mort spirituelle. Et si vous ne vous repentez pas, alors physiquement, de toute façon, on mourra tous, enfin, sauf si Jésus revient avant, mais à cette époque-là, il pouvait quasiment leur garantir, vous mourrez tous, physiquement. Mais si vous ne vous repentez pas, vous mourrez spirituellement aussi derrière. Et faites attention à ça, c'est ça le plus important. Il leur dit, vous ne fixez pas sur la mort physique, il arrive des choses, voilà, les gens meurent, mais le plus important, ce n'est pas ça. Et repentez-vous. Alors, quand on parle de repentance, le terme qui est utilisé, c'est métanoéo. Je suis super bon en grec. Métanoéo, métanoïa. On l'a déjà entendu, je pense, dans l'église. Ça a dû venir d'Alex ou Paul, certainement. Qui est traduit par se repentir, mais qui veut aussi dire changer son esprit. Et donc, à chaque fois qu'on voit le mot repentance, il y a ce terme métanoéo derrière. Donc, quand on lit dans Matthieu, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert, il disait repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. C'est ce mot-là. Jésus commençait à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et à chaque fois qu'on voit repentir comme ça, c'est métanoéo. C'est pas facile à lire le grec. Et ça veut dire « se repentir, changer son esprit. » Alors quand il dit « Repentez-vous, sinon vous périrez tous également. » Il y a cette notion de « changer votre esprit, arrêter de voir les choses comme ça. » Dans votre tête, arrêtez de faire le lien entre ce qui arrivait à ces gens et leur péché. Il n'y a pas de lien. En tout cas, dans cette situation-là, il dit il n'y a pas de lien. Parce qu'il y a des fois où il y a clairement un lien et c'est la Bible qui nous le dit. Mais il faut pas qu'on ait une généralité dans nos têtes de « il m'arrive des bricoles, donc c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal ». Il y a des situations où Dieu utilise la maladie, la mort pour nous parler. Et ça, c'est inévitable, mais c'est pas systématique. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on se remette en cause. Qu'est-ce que j'ai fait contre toi, Seigneur? Et des fois, on honore le Seigneur, et puis c'est tout, il nous arrive des choses, le Seigneur veut juste nous apprendre quelque chose. Mais il n'est pas en train de nous dire, t'as péché. Voilà. L'un des exemples qui est assez clair dans la Bible, c'est Pilate, on revient à lui. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent le voir. Des gens de Tyr et Sidon, si je ne me trompe pas, qui viennent le voir et il finit par faire un grand discours devant la foule. Et la foule dit « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui touche Pilate et il meurt rongé des vers quelque temps après. Donc on voit que ce qui lui arrive là, c'est en lien direct avec ce qu'il a fait. Il n'y a pas photo. Hérode, pardon, c'est vrai. Il y en a qui suivent. Le pire, c'est que j'ai dû le noter quelque part, mais je ne lis pas tout ce que j'écris. Hein. Je l'ai pas écrit, donc je peux pas le lire. En tout cas, voilà, dans le cas d'Hérode, il y a un lien direct entre ce qui lui arrive et ce qu'il a fait. Mais Jésus nous dit ici, les Galiléens, c'est pas ça. Et je pense qu'il nous dit, c'est, cherchez pas un lien systématique avec ça. Finalement, la nouvelle naissance, c'est un peu ça. Hein. Alors, c'est bien qu'il faut faire attention entre repentance et nouvelle naissance, mais ça va dans le même sens. Hein, tous les deux, c'est des étapes. Mais le fait de se repentir, changer d'état d'esprit. Arrêtez de voir ce qui est physique, même si c'est la mort, et voyez ce qui est spirituel derrière. Jésus, il leur dit ça, repentez-vous, changez votre manière de voir les choses. Alors ce qu'il leur dit là, c'est peut-être une prophétie. Alors, difficile à savoir ce qu'il voulait dire exactement, mais quelques dizaines d'années après, les gens vont être massacrés dans Jérusalem, et Jérusalem sera détruite par les Romains. On peut dire, est-ce qu'il n'était pas en train de les avertir, de leur dire, mais... changez votre manière de vivre, sinon vous allez finir par y passer aussi. On ne sait pas. Mais c'est délicat, parce que si on dit que c'est ça, c'est-à-dire qu'on refait un lien, vous voyez, entre ces gens qui ne sont pas repentis et ce qui leur est arrivé derrière. Et on retombe dans le travers des gens qui venaient voir Jésus. J'ai rapproché ça aussi en y réfléchissant. À la Genèse, c'est un passage qu'on lit souvent, et quand le serpent dit à Ève, non, vous ne mourrez pas. Dieu a dit que vous mourrez, mais non, vous ne mourrez pas. Et effectivement, physiquement, c'est ce qu'on dit très souvent, physiquement, Adam et Ève ne sont pas morts. Donc, il y a quelque chose, mais spirituellement, ils sont morts. Et je pense qu'on parle encore une fois de la même chose ici dans ce passage-là. Il dit, repentez-vous, sinon vous allez mourir. C'est spirituel. En fait, quand on entend les propos de Jésus, il peut y avoir des applications concrètes, mais souvent Jésus il nous parlait de manière spirituelle. Et le défaut des pharisiens, c'est qu'ils comprenaient pas l'aspect spirituel des choses. Et donc il faut que nous on soit aussi assez près du Seigneur pour comprendre qu'il nous parle de cette manière-là et pas le prendre à chaque fois au pied de la lettre et se tromper. dans 2 Corinthiens 4, verset 18, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On y revient toujours, Jésus il nous parle de manière spirituelle et pas matériellement en fait. Alors des fois ça a une double application, mais ce qu'il veut nous parler c'est spirituel. Le but de Jésus c'est qu'on s'approche de lui, c'est qu'on grandisse en lui. Il est spirituel, il n'est pas de nous faire grandir physiquement en fait. Même si c'est un peu une conséquence, il veut notre bien, donc il nous veut ça aussi. Mais ce qu'il nous dit c'est spirituel avant tout. Ah ben je l'avais écrit Hérode. Dans Ézéchiel 18, 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ?» dit le Seigneur l'Éternel. « N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» C'est là où on commence à voir l'amour de Dieu, en fait. Là, on parle que de malheur, hein, on parle que de trucs qui peuvent nous arriver. C'est pas super joyeux. Mais Dieu dit, « Moi, je veux pas, en fait, que vous mouriez. Je veux juste que vous tourniez vers moi et que vous viviez. » Mais quand il le dit, il parle spirituellement aussi. Il y a des chrétiens qui meurent, il y a des chrétiens qui meurent dans des accidents, des chrétiens qui meurent sous la persécution dans d'autres pays. Voilà, il nous arrive tous des maladies, ça on ne peut pas le nier. Donc il y a un tas de choses et Dieu n'a jamais dit qu'on serait plus malade, qu'on aurait... Voilà, on revient dans la doctrine de prospérité encore une fois, hein, si on tombe là-dedans. Mais ce que Dieu il veut, c'est spirituellement qu'on vive. C'est ça le plus important. Pourquoi on a ce raisonnement-là de dire s'il nous arrive ça, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. C'est lié au c'est pas juste qu'on entend quand il se passe quelque chose comme ça. Hein. Parce que notre justice humaine, elle est bâtie comme ça, en fait, je pense. On reste un peu sur l'Ancien Testament, hein, et il arrive quelque chose, il y a réparation. Et la justice humaine, elle raisonne en termes d'équivalence. J'ai fait telle faute. À tel niveau de gravité, ben je vais prendre telle peine avec tel niveau de gravité. Alors faut bien avoir des règles hein, humainement. Mais Dieu, il raisonne pas du tout comme ça en fait. Quand on lit la Bible, il est juste débordant d'amour. Il est juste débordant de pardon, débordant de grâce. Alors il y a une équivalence effectivement avec Dieu. Au plus vous péchez, au plus il vous aime. Et si vous pensez dans la tête que vous n'êtes pas pécheur, vous sentez pas l'amour de Dieu, vous en avez pas besoin. Donc il y a cette équivalence, mais pas du tout dans le sens où on l'entend dans nos têtes humaines à nous. Pour montrer le contraste entre ce que le diable veut et ce que Dieu veut, je cite Jean chapitre 10, verset 10, qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Là, on voit l'œuvre du malin. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Là aussi, on touche l'amour de Dieu. Même dans ce qui se passe pour nous, on peut reconnaître la main du malin qui essaye aussi de nous faire mourir spirituellement. Et la main de Dieu qui veut à tout prix nous faire vivre spirituellement. À partir du verset 4, Jésus donne une autre situation. Le raisonnement est exactement le même. Il dit « C'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?»« Non, je vous le dis. » La réponse, elle est claire. Il y a quelques mots, on ne peut pas se tromper. Est-ce que parce que cette petite fille, elle est morte dans l'accident, c'est parce que elle était plus pécheur que d'autres ? Non, pas forcément. Est-ce que ses parents étaient plus pécheurs ? C'est à cause d'eux qu'elle est décédée ? Non. On peut mettre tous les accidents qu'on veut là-dedans. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus donne deux situations et que ça balaye quand même pas mal de choses dans nos vies. Il nous parle de gens qui finalement, ils avaient l'air quand même d'être mauvais et qui meurent, qui sont persécutés et qui meurt à cause de la cruauté d'une personne. Et après, il parle d'accident. Voilà, c'est la vie, c'est le hasard, c'est les circonstances qui font qu'on se retrouve là et qu'on meurt. Mais il dit là aussi, c'est pas parce que vous mourrez dans un accident, qu'il vous arrive un accident, qu'il arrive un accident à un de vos proches, que c'est parce qu'ils sont plus pécheurs que les autres. Il dit, faites pas ce lien systématiquement là. Et c'est important pour nous, hein, parce que j'y reviens dans nos têtes, même nos têtes de chrétiens, on fait ce lien, on se dit, il m'est arrivé ça, Seigneur, pourquoi il m'est arrivé ça ? Et on revient à chaque fois dans ces mêmes réflexions-là. Et Dieu, il dit, mais cherche pas systématiquement à voir si tu as péché et que c'est pour ça que c'est arrivé. Vois comment tu peux en tirer ma gloire, comment moi, je peux faire quelque chose de bien de cette situation-là. Donc la cause de mort est différente. D'un côté, c'est la cruauté des hommes, qui le méritait peut-être, ça on n'en sait rien. De l'autre côté, la tour de Siloé, c'est juste un accident, la cruauté du sort, en fait. C'est juste un accident. Mais la réponse de Jésus est exactement la même. cette mort-là, cette mort par accident, ce n'est pas un jugement de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que ça ne l'est jamais. Il y a des fois où Dieu utilise ces choses-là aussi, puisqu'il est maître de tout, il peut utiliser un accident, mais il ne faut pas chercher un lien systématique. Si on devait prendre pour nos fautes, on serait tous morts, et puis voilà. S'il devait y avoir un lien comme ça systématique, on ne serait plus là, j'aurais plus besoin de prêcher, on serait tous morts. La Bible nous dit qu'on est tous pécheurs, qu'on mérite tous la mort. Donc c'est clairement pas une justice de Dieu de s'amuser à dire ben celui-là, allez, est plus pécheur que l'un, hop, je le tue, hop, je lui fais mourir, je lui donne des accidents. Il n'est pas du tout comme ça, Dieu. Quand on le connaît, on le sait. Alors dans la tête des gens qui ne sont pas chrétiens, ils se font une image de Dieu qui est dure et ils peuvent voir Dieu comme ça. Mais là, c'est notre rôle à nous d'aller leur dire, mais Dieu, il n'est pas comme ça, il t'aime. Alors c'est sûr, c'est difficile, c'est ce que j'ai écrit dans cette petite carte aux parents, c'est Dieu vous aime. Je sais que ça paraît déplacé, que ça paraît dur, mais Dieu vous aime. Pourquoi ? Parce que la justice, ce serait justement que vous mouriez. Mais il a donné son fils et il ne veut pas que vous mouriez. Tout ce qu'il veut, c'est que vous viviez et que vous ayez la vie en abondance. C'est à ça qu'on voit l'amour de Dieu, en fait. Hein, la première preuve d'amour, c'est pas qu'il nous sort de certaines situations, c'est qu'il veut notre vie. Et après, dans certains cas, y a des gens qui laissent mourir parce que c'était comme ça, parce que ça faisait partie de son plan, et des personnes qui sortent d'un accident, qui fait échapper aux accidents parce qu'il avait prévu autre chose, en fait. Mais il n'y a pas de lien systématique. Je reviens toujours avec le même terme pour être sûr qu'on l'embarque dans nos têtes à la fin. Alors j'ai eu envie d'ajouter une autre histoire à ces deux-là. Vous avez compris que mon idée, c'était ces deux passages-là. Hein. Je pense qu'il y en a un troisième qui balaye encore une situation un peu différente et qui nous fait du bien aussi. Et c'est intéressant parce qu'elle se termine à Siloé aussi. Cette histoire-là, c'est l'histoire de celui qui est aveugle-né. Qu'il est aveugle de naissance. Jésus lui fait de la boue avec sa salive, lui applique sur les yeux, il dit « Va te laver au réservoir de Siloé ». Et quand il en revient, il voit. Ce qui est intéressant, c'est de voir, donc ça c'est dans Jean 9, c'est la réaction des disciples au début, en fait, qui correspond exactement à ce qu'on a vu dans Luc. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Qu'il soit né aveugle, il n'y a pas de thé. Jésus répondit, « Ce n'est pas lui que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Vous voyez, encore dans la tête des disciples, hein, pourtant, ils commençaient à côtoyer Jésus, mais... C'est un peu comme nous, hein. On côtoie Jésus, mais des fois on fait quand même le lien. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et les disciples, ils disent, mais alors il est malade, mais c'est lui ou c'est ses parents? Enfin, ça pouvait paraître discussion un peu réfléchie, hein, mais Jésus, il les écarte direct. Il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Là aussi, sa réponse, elle est très très claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et on revient finalement sur la même réponse de Jésus que ce qu'on a lu tout à l'heure. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc on y revient à Dieu qui nous dit un peu, cherche pas une raison, un péché qui serait la cause de ton malheur, que ça soit la mort, que ça soit un accident, la cruauté des hommes, ou même une maladie. Cherche comment ça va me glorifier, en fait, cette situation-là. Et quand on est dans cette situation, alors c'est difficile, hein, parce qu'on cogite, en fonction de la gravité des situations, on réfléchit, on a du mal. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de le voir avant que ça nous arrive, ou du mieux possible. Hein, et de se dire après, quand on sera dans cette situation-là, Seigneur, comment tu veux que je te glorifie au travers de ça? Comment tu vas te glorifier? Alors des fois, on n'a pas la réponse tout de suite. Hein, et il faut un certain temps avant de comprendre. Mais notre raisonnement, ça devrait être celui-là. Regardez aussi la réaction des pharisiens en Jean 9, donc toujours le même chapitre. Pourquoi cet homme discute avec les pharisiens? Parce que les pharisiens, donc le miracle est connu, les pharisiens cherchent à savoir un peu est-ce qu'il était vraiment aveugle, hein? Est-ce que c'est un vrai miracle de Jésus? Donc ils commencent à fouiller comme ça, à faire leur petite enquête. Les parents, ils veulent pas répondre, ils ont peur. Et quand ils se retrouvent... avec ce monsieur devant eux, il dit « Alors, est-ce que c'est un vrai miracle ?» Puis le monsieur leur dit « Mais oui, enfin voilà, il y va pas de main morte. » Il leur dit « Vous connaissez des gens qui ont péché et qui font des miracles comme ça? Moi, je sais que je voyais pas et maintenant que je vois. » Voilà, c'est très clair. Et les pharisiens lui disent au verset 34, 4, ils savent plus quoi répondre. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Ils avaient aussi ce raisonnement-là. Pourquoi tu étais aveugle? Parce que tu étais pécheur, c'est tout, c'est pour ça que ça t'est arrivé. Et là, on reconnaît la dureté du diable, hein, la dureté de l'homme aussi, de dire, ce qui t'arrive, quelque part, réfléchis, hein, c'est peut-être un peu de ta faute. Voilà. C'est violent quand tu es malade, quand il y a des situations difficiles. Et du coup, il ne faut surtout pas qu'en tant que chrétien, on ait ce discours-là. Si c'est ça, on a raté quelque chose de l'amour de Dieu. On ne peut pas aller vers les gens et essayer de les consoler, leur dire, parce qu'on peut le dire, on peut l'emballer un peu. Hein. Quand on est chrétien, on emballe les choses. On va être à côté de la personne, mais dans ta vie, ça va. Dire, tu n'as pas de soucis particuliers. Et puis, on pourrait vite glisser vers ce qui t'arrive. Tu vois pas de raison, non? Il n'y a pas un truc qui se passe dans ta vie qui pourrait expliquer pourquoi ça se passe comme ça. On rigole, mais dans ce qu'on dit, des fois, on n'est pas très loin, ou dans ce qu'on pense, même si on ne le dit pas. Et on n'est pas mieux que les pharisiens quand on fait ça. Les pharisiens, ils n'ont pas fait grand-chose pour cet homme, hein, quand on regarde. Ils l'ont enfoncé, ils ont juste cherché à l'enfoncer. Heureusement, il avait croisé Jésus, il en était conscient. Et quand Jésus le croise, après, il dit, alors tu crois au Fils de Dieu? Il s'est prosterné, il a adoré. Je crois Seigneur, et il l'adora, au verset 38. Mais on retrouve dans la tête des disciples, dans la tête des pharisiens, des juifs, d'une manière générale, je pense dans la tête de tous les hommes, ce lien de ce qui t'arrive. Il y a une raison quelque part, hein, réfléchis, c'est que tu as fait quelque chose de pas bien. Et voilà, Dieu veut pas du tout de ce raisonnement-là. Il n'y a pas de lien systématique. Il peut y en avoir un, parce qu'on dit l'histoire d'Hérode, après on pourrait fouiller, en trouver d'autres, mais c'est pas systématique. Et donc il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête, et que quand les gens nous disent pourquoi ça m'arrive, des fois on n'a pas le pourquoi en fait. On ne peut pas les aider, on ne peut pas dire Dieu il fait justice, il ne fait pas justice, je ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Tout ce que je sais, c'est que Dieu t'aime et c'est qu'il veut tirer sa gloire de la situation. Maintenant, comment il va le faire, j'en sais rien. Je vais prier avec toi, je vais t'aider, je vais chercher la face du Seigneur. Mais ce que Dieu veut, c'est ça. À la réponse de Jésus, elle ressemble à ce qu'on avait dans l'histoire de Lazare, hein, quand Lazare était malade et que Jésus dit « ça va pas aller à la mort, c'est juste pour me glorifier ». Et donc là, ce qu'il répond aux disciples, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc on y revient à chaque fois à cette phrase-là. Donc on a vu trois situations où la réponse de Jésus est systématiquement la même. Ne cherchez pas une explication en termes de péché à ce qui vous arrive. Pas systématiquement. Il y a la cruauté des hommes, la cruauté d'un accident, du hasard et la maladie. Et la maladie, c'est important parce qu'on peut vite tourner dans notre tête aussi. Pourquoi j'ai de l'eczéma depuis tant d'années? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça? Est-ce que j'ai encore un péché qui n'est pas réglé avec le Seigneur? Est-ce que c'est pour ça que tu ne me guéris pas, Seigneur? Quand on réfléchit à la guérison, on cherche pourquoi le Seigneur pourrait ne pas nous guérir. Et donc on va dire, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai cette maladie-là? Est-ce que tu veux... Et puis en fait, on s'embourbe dans une situation qui n'a pas lieu d'être parce qu'on cherche et on fouille pendant des années peut-être, ce qui peut bloquer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Seigneur, pour que tu permettes ça dans ma vie? Montre-moi. Et puis on peut prier pendant des années, montre-moi le péché qui cause ça. On est complètement à côté de la plaque. Au lieu de chercher, Seigneur, comment je peux te glorifier dans cette maladie, on est en train de chercher de comment je vais en sortir, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et voilà, ça, je sais pas, j'ai préparé tout ce message-là un peu en dernière minute. Puis ce matin dans le culte, je me dis, mais en fait, ce message, il est pour moi. Il est pour moi. Alors, je pense qu'il n'est pas que pour moi, sinon il ne m'aurait pas laissé le préparer, il m'aurait juste parlé dans mon coin et puis je ne vous l'aurais pas partagé. Bon, aussi, parce qu'on partage toujours. Ça peut toujours être bon à prendre, hein, mais voilà. Mais il y a vraiment quelque chose pour nous. Le plus important, et je résume un peu les idées qu'on a vues, hein, c'est de ne pas chercher. Je suis super lourd avec ça, je sais, hein, mais je veux que ça rentre. Ne pas chercher systématiquement un péché qui soit la cause de ce qui nous arrive. Que ça soit un accident, la cruauté des hommes, la maladie, il n'y a pas de lien systématique. Qu'est-ce qui est le plus important, nous dit Jésus, c'est repentez-vous, sinon vous mourrez également. Ce qui est important, c'est notre destinée éternelle, notre destinée spirituelle en fait. Il faut qu'on se fixe là-dessus. Est-ce que ça, c'est réglé? Comme on l'a déjà cité, Dieu ne veut pas que les méchants meurent. Il veut que tous soient sauvés. Ça, c'était Ézéchiel 18, 23. et les idées qu'on a vues encore et sur lesquelles il faut qu'on se fixe. C'est ça les vraies réflexions qu'on doit avoir dans ces situations-là. C'est Seigneur, comment je peux te glorifier? Comment cette situation-là, elle peut te glorifier? Alors des fois, on n'aura pas les réponses. Hein. Je ne peux pas vous dire pourquoi je suis malade, pourquoi j'ai telle ou telle situation. Mais je sais qu'à la fin, le but de Dieu, c'est sa glorification. À lui. Comment ça va arriver? En combien de temps? Ça, voilà. Il me le révélera peut-être en cours de route. Peut-être qu'il ne me le révélera pas et je ne saurai pas. Hein. Ça se passera après ma mort ou voilà. On n'en sait rien en fait. Mais c'est ça qu'il faut chercher. C'est moi, du peu que je peux faire, Seigneur, comment je peux te glorifier dans ma situation? Et le Seigneur, il fera, il travaillera. Parce qu'on se sera positionné en tant qu'un outil dans ses mains en fait. Alors je reviens, juste pour terminer, largement dans les temps. Sur Luc 13. Donc on a lu les 5 premiers versets. Et en conclusion, je voudrais lire les quelques versets qui suivent. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore 7 années. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Je pense que ça, c'est vraiment clairement bien mis dans la suite par rapport à ce qu'on a vu. Il y a un délai supplémentaire. Là aussi, on y voit l'amour de Dieu. Il y a un délai supplémentaire pour qu'on se repente, qu'on se tourne vers lui et qu'on porte réellement du fruit. Dieu veut pas qu'on meure, il veut qu'on porte du fruit, qu'on soit à sa gloire. Dieu pourrait dire, voilà, maintenant, stop. L'humanité, stop, j'en peux plus. C'est que du péché partout. Je supporte plus, j'arrête tout. Et il donne un délai supplémentaire. Il donne un délai supplémentaire à chacun en particulier pour qu'on puisse porter du fruit. Des fois, on dit, Seigneur, ma vie, j'aimerais bien porter plus de fruits. Là, c'est un peu, je sais pas, on est frustré nous-mêmes par le peu de fruits qu'on porte, en fait. Et le Seigneur dit, je te donne encore du temps supplémentaire. C'est à ça qu'on voit qu'il nous aime, en fait. Hein. Il pourrait dire, ok, bah, stop, on arrête tout. Tu meurs dans un accident, on n'en parle plus. Ou tu meurs d'une maladie, enfin, plein de moyens de mourir, hein. Mais Dieu n'est pas comme ça, il ne le retranche pas, il dit voilà, je vais mettre toutes les conditions autour. Je vais creuser autour, je vais mettre du fumier, je vais vraiment en prendre soin pour qu'il porte du fruit. Et ça, c'est Jésus qui met toutes les conditions autour de nous pour qu'on porte du fruit, y compris les accidents, la mort, les maladies. C'est des éléments que Dieu peut utiliser pour qu'on porte du fruit. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était mes 3 idées, c'était ça, pour tourner autour des accidents, des maladies, de la mort, même par la cruauté des hommes. Voilà, vous voyez que ça répond pas à toutes les questions qu'on peut se poser quand il y a la maladie, quand il y a la mort et tout ça, mais ça nous donne une piste de réflexion. En tout cas, moi, ça a été mon cas pour l'accident de cette petite. On sait pas quoi répondre aux gens et on se trouve bête. Alors des fois, faut juste se taire, hein. Faut juste être avec les gens, leur dire qu'on les aime et leur montrer. Et voilà, c'était pas forcément le moment de parler. Mais il y a des fois où il faut parler et on se retrouve sec en fait, on n'a pas réfléchi avant à la situation. Et on se retrouve vraiment complètement bête dans certaines situations. Alors notre travail en tant que chrétien, c'est de chercher les réponses du Seigneur. C'est un peu ce que font les jeunes avec Manu, hein. Ils épluchent un tas de questions importantes et le jour où les situations se posent, ils savent comment y répondre, ils ont des éléments derrière. Donc ça, c'est notre vie de chrétien, de grandir, d'apprendre avec les situations qu'on peut croiser. Ah, je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole, merci de ce que tu m'as parlé avant tout. Et Seigneur, ce n'est pas une leçon que je fais aux autres, c'est une leçon que j'ai reçue et que je veux partager, Seigneur, en toute fraternité avec mes frères et sœurs. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes des éléments de réponse à chacun, tu nous donnes de les partager les uns aux autres et de nous encourager les uns les autres. Merci Seigneur, parce que tu veux qu'on se repente, qu'on change d'esprit, qu'on change de manière de voir les choses et... Seigneur, ce mot métanoéo, aide-nous à voir les choses spirituellement, Seigneur, à ne pas voir les choses comme les pharisiens de l'époque, même comme les juifs de l'époque ou les disciples, mais à le voir comme toi tu les vois, Seigneur, spirituellement. Montre-nous comment te glorifier dans nos situations, comment t'élever dans nos situations, Seigneur. C'est ce que nous voulons, en tant que chrétiens, être des lumières pour le monde et les attirer à toi. Aide-nous à faire ça, Seigneur, pour les gens autour de nous qui peuvent souffrir, à les aiguiller vers toi, à les attirer à toi par notre comportement Seigneur, nous sommes conscients aussi que c'est notre comportement dans ces situations-là, quand ça nous concerne, qui compte beaucoup et qui éclaire les gens. Nous prions de, Seigneur, nous travailler à l'avance pour que quand ça nous arrivera, on puisse réagir de la bonne manière, Seigneur, parce qu'on aura toi dans le cœur et que c'est toi qui réagiras en réalité. Merci, Seigneur. Amen.